à présent...
Frédéric Worms.
À présent et ce soir pour affronter l'urgence. L'urgence était déjà un caractère de notre présent. Avant la pandémie, elle envahissait déjà toute notre vie, tout le paysage. Et il y avait déjà aussi des urgences réelles. Mais qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le problème de l'urgence doit-il être affronté aujourd'hui pour qu'on puisse affronter les problèmes de nos vies? Nous en parlons ce soir avec Hélène Leuillet, philosophe et psychanalyste, et Pierre Valette, médecin urgentiste et philosophe, auteur tous deux de livres essentiels pour affronter cette question. L'urgence, Hélène Leuillet et Pierre Valette, vous en êtes tous les deux des spécialistes, même si les livres dont nous allons partir aujourd'hui l'abordent de côtés très différents en apparence. Pierre Valette, vous êtes médecin urgentiste, chef de service du SAMU du Pas-de-Calais à Arras, et vous avez écrit une thèse et publié un livre il y a déjà quelques années intitulé « Éthique de l'urgence, urgence de l'éthique ». Vous en êtes à la fois un praticien donc de l'urgence, parfois dans les hélicoptères et les camions du Pas-de-Calais, et dans les hôpitaux, évidemment, et en même temps un théoricien. Et Hélène Leuillet, vous êtes philosophe à la Sorbonne et psychanalyste, et le dernier de vos livres, Éloge du retard, semble plutôt être une critique de l'urgence et prendre l'urgence de biais, de côté, d'une façon critique, tout j'imagine quand même en assumant certaines, et c'est l'une des questions dont on va parler. Ce que je voulais vous demander à l'un et à l'autre, ou à l'une et à l'autre, d'abord pour ouvrir notre discussion, c'est vous avez tous les deux cette réflexion de fond sur l'urgence, comment l'affronter, comment les sélectionner parmi les urgences, comment répondre à cette pression qui se généralise aujourd'hui de l'urgence en apparence. Mais avant de solliciter vos réflexions et de discuter d'une manière, disons, plus générale, est-ce que l'événement de la pandémie a changé quelque chose à votre pratique et à votre sentiment de l'urgence? Peut-être je me tourne d'abord vers Pierre Valette. Vous dirigez donc un SAMU. On a, pendant toute l'épreuve de la pandémie, dont on n'est pas sorti finalement, j'imagine que vous avez été aussi sollicité à ce titre. Qu'est-ce que cet événement change ou ne change pas, confirme peut-être aussi dans votre approche de la question, Pierre Valette?
Nous avons été sollicités, bien sollicités, beaucoup sollicités. Et nous avons répondu dans un premier temps à l'angoisse des personnes avant de répondre en urgence aux soins nécessaires pour prendre en charge ces personnes.
L'angoisse des personnes, pardon Pierre Valette, c'était donc des appels finalement. Alors, oui, l'urgence, c'est d'abord un appel d'urgence.
C'était un appel d'urgence et... Quand vous me posez la question, Frédéric Worms, si il y a eu des changements, en fait, nous avons eu l'impression que nous étions dans notre milieu, puisque par essence, l'urgence est une situation de crise. L'urgence médicale est une situation de crise et nous avons l'habitude de dire, peut-être de façon un peu présomptueuse, nous urgentistes, que la crise, c'est notre ADN. Et la crise Covid n'a fait que finalement nous propulser sur le devant de la scène et d'exercer ce que nous avons, on va dire, l'habitude d'exercer, c'est-à-dire l'imprévisible. Nous étions confrontés à des personnes qui s'interrogeaient sur ce nouveau virus. Nous étions, comme eux aussi, à ce moment-là, en train de nous interroger sur, justement, le virus en lui-même. Ensuite, nous interrogions sur ce qu'il fallait leur répondre. Et on pourrait dire que, durant la crise, il y a eu une différence de degré dans notre activité et non une différence de nature.
Pas différence de nature. Donc, par exemple, avant d'y revenir avec Hélène Leuillet dans un instant, le fait justement d'être un peu démuni face à l'événement, puisqu'on ne savait pas, on ne sait toujours pas tout d'ailleurs, c'est un des traits de l'événement, le fait d'être parfois débordé aussi, monter en puissance, pour vous, c'était une différence de degré, donc je dirais pas un peu plus, c'était plus, mais dans le même ordre d'événements, d'expériences que celui que vous viviez déjà auparavant.
Oui, alors la grande différence, c'est justement la temporalité. Et nous avions donc ce que l'on peut appeler dans notre jargon une crise à cinétique lente. Et ce qui a permis justement de progressivement de monter en puissance pour être en capacité de répondre.
C'est Cinetic Land, c'est vous avez vu venir la vague finalement. C'est une vague. Le tsunami. Vous l'avez vu de la plage au loin, et puis vous l'avez vu à peu près.
Oui, en fait, dans les catastrophes, il y a par exemple, quand il y a une catastrophe chimique, nous avons par exemple un nuage toxique avec une intoxication de population. Nous sommes là dans une cinétique rapide. Mmh. Beaucoup de blessés rapidement, beaucoup de personnes à prendre en charge en même temps. Là, pour ce qui est de l'infectiologie, donc d'un virus, nous sommes plutôt dans une cinétique lente, c'est-à-dire qu'il y a quelques cas, et ensuite ces cas vont former alors, ce que maintenant, communément, on appelle des clusters.
Mm-hmm. Donc, oui, il y a beaucoup de mots qu'on maîtrise maintenant. Il y a quelques temps, je vous aurais demandé de traduire, mais là, non.
Oui, c'est vrai que maintenant, le grand public est très familiarisé avec les tests faux négatifs, les clusters. Alors là, ce sont des chaînes de contamination qui, avec une propagation qui, bien sûr, s'étale sur plusieurs jours, puisque les périodes d'incubation sont telles que nous n'avons pas, justement, malgré tout, nous n'avons pas cette effet vague de tsunami, mais nous avons quelque chose qui progressivement monte et à un moment donné a atteint un seuil critique et ce seuil critique va déclencher une peur dans la population parce que tant que les cas sont isolés, les personnes se rassurent toujours en médecine. On a toujours l'habitude de dire ça n'arrive qu'aux autres et quand ça nous arrive à soi, on dit pourquoi toujours moi.
Oui, alors que là, tout à coup, progressivement plutôt, il y a cette montée en puissance et au fond, on rejoint des événements que vous connaissiez déjà au moins en partie. Mais vous, Hélène Le Yay, au fond, vous aviez dans l'éloge du retard, en tout cas, hein, parce que vous affrontez aussi des urgences, enfin en tant que médecin et comme être humain, tout simplement. Mais dans l'éloge du retard, vous avez critiqué cette urgence qui envahissait toute notre vie. Est-ce que dans le monde social d'aujourd'hui, je dirais d'une manière un peu vague, est-ce que pour vous l'urgence médicale, tout à coup, la crise de la pandémie, est-ce que ça confirmait cet envahissement de l'urgence partout, ou bien est-ce que ça nous oblige et vous aussi à reconnaître qu'il y a des urgences au fond
Qu'il y ait des urgences, c'est indiscutable. D'ailleurs, bon, je ne parlerai peut-être pas beaucoup de l'urgence médicale, non. Et d'autant que je m'étais intéressée à un autre métier de l'urgence, qui est la police, qui est un métier de l'urgence aussi. Enfin, il y a des métiers de l'urgence, et justement, on y reviendra
dans votre
peut-être.
Thèse d'ailleurs, voilà, Hélène Le Yay, donc ma thèse vous avez tous les deux fait des thèses sur des objets de philosophie sur des objets du monde réel, la police et l'urgence médicale.
Absolument. Ce sont des métiers de l'urgence et je pense que justement l'urgence s'apprend. Mais ce qui m'a frappé, c'est que surtout pour la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre sur le retard. C'est que le fait d'être en état d'urgence ne rend pas forcément apte à affronter l'urgence. Mmh. Être en état d'urgence permanent ne rend pas apte à affronter l'urgence. Si je m'intéresse à la police, la police, par exemple, elle attend beaucoup. Et que pour apprendre...
Elle a une permanence, même on dit, il y a des permanences au commissariat.
Exactement.
C'est plutôt la permanence.
Et une permanence souvent très vide. Il y a une vacuité pour pouvoir être disponible. Alors, on verra s'il peut y avoir des convergences avec les métiers de l'urgence médicale. Mais en tout cas, pour pouvoir repérer à quel moment il faut agir, il faut soi-même ne pas être en état d'urgence pour se rendre disponible à la juste perception de l'événement. Et donc, si vous m'interrogez, moi, sur ce que la pandémie a changé pour moi par rapport à ça, oui, elle m'a plutôt confirmé dans la nécessité d'avoir à essayer de limiter un état d'urgence qui ne répondait pas à un réel de l'urgence. Mm-hmm. S'il y a urgence, il y a urgence. Il faut faire face. Mais quand il n'y a pas urgence, ce qui a été le cas pour quand même beaucoup de gens, surtout en confinement, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, j'essayais de sécuriser le temps.
J'essayais quand vous dites qu'il n'y a pas urgence, c'est-à-dire justement, c'est le risque, ce serait qu'on croit tout le temps qu'il y a urgence pendant la pandémie,
oui.
Alors qu'en fait, l'urgence n'arrivait qu'à certains moments et il ne fallait pas la mettre partout. Et
absolument. Ce que je critique, c'est le paradigme de l'urgence. Mmh. Vous voyez, j'ai pu lire parfois que certains ne pouvaient pas se concentrer sur leur travail intellectuel parce qu'on ne pouvait pas, étant donné l'urgence qui régnait dans les hôpitaux, dans la médecine, être à ce point pas empathique. Là, c'est un raisonnement que je conteste beaucoup. C'est comme ça qu'on perd le temps subjectif. Hein, parce qu'on n'aide personne en n'étant pas concentré sur son travail. Ça n'aide pas les médecins, ça n'aide pas les malades. Je crois qu'effectivement, quand on n'est pas soi-même frappé par l'urgence, qui a quand même été heureusement le cas d'une grande majorité de la population, et qu'on devait rester confiné pour ne pas entraîner de contamination et pas risquer d'aggraver le pic épidémique, il fallait essayer de pas perdre complètement de vue le temps subjectif. Alors, il y avait un régime temporel très différent selon les personnes. Ça a fait éclater les régimes temporels. Ça nous a obligés aussi à inventer une certaine temporalité. Je me suis rendu compte que, personnellement, je m'étais donné aussi comme fonction de maintenir un cadre, à la fois pour mes étudiants, pour lesquels j'ai fait des podcasts, j'ai répondu à leurs étudiants, aux horaires aussi, qu'on avait. Ouais. Voilà, ouais. À nos horaires. Et puis, pour mes patients que j'avais au téléphone. Mais je me suis rendu compte d'une chose, si je peux dire personnellement, c'est que j'avais complètement oublié les vacances. Alors, pour l'université, oui, et les jours fériés.
Donc, il y a eu quand même un effet direct.
Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait que je tienne le cadre.
C'est pas l'urgence tout le temps, mais le vacances au sens du vide, de faire le vide, c'était plus possible non plus.
Il fallait que je tienne la structure pour que chacun puisse...
Et quand même en raison de l'événement, finalement.
Alors,
ce qui me frappe beaucoup, Hélène Leuillet, dans ce que vous dites, c'est que, en effet, vous résistez à cette généralisation de l'urgence sous la pression de l'événement. Ça rejoint des thèmes aussi du livre, puisqu'au fond, si tout le monde se sentait déjà en réanimation, c'est par les médias, la télévision qui généralise le sentiment de l'urgence. Ce que je voulais vous demander, avant d'en reparler avec Pierre Valette, que d'ailleurs vous rejoignez à mon avis beaucoup plus qu'on ne pourrait croire au départ, puisque dans le livre sur la médecine d'urgence, le médecin aussi prend du temps, prend du recul, absolument, même sur la scène du drame, en quelque sorte, dans la thèse de le livre de Pierre Valette. Ce que je voulais vous demander, c'est votre rapport à ce que vous avez critiqué implicitement le modèle médical de l'urgence. Pour vous, il y a un danger dans cette épreuve médicale de l'urgence, est-ce que c'est pas quand même la vérité première de l'urgence? C'est quand la vie est en danger et que le médecin est appelé au secours.
Je pense pas avoir...
Non, vous avez dit, au fond, il y a un risque dans ce modèle médical. On a l'impression
le risque
qu'il peut
du
tout
modèle
envahir.
De l'urgence, qui peut être aussi un modèle politique. Le paradigme de l'urgence, le fait d'être en état d'urgence, parce que être en état d'urgence, c'est forcément être anxieux. C'est-à-dire qu'on a vu aussi une anxiété induite par effectivement le nombre de morts, de contaminations par jour, qui a été complètement contre-productive et qui a créé des troubles anxieux dont on n'avait pas besoin. En même temps, c'est formidable, ça a fait beaucoup travailler les gens parce que le virus est doté aussi d'une puissance fantasmatique, pas seulement réelle, mais qui est extraordinaire et qui fait travailler beaucoup certains patients, mais à condition peut-être de pas se greffer sur une anxiété qui est inutile, un stress inutile. Je pense qu'il vaut mieux essayer tranquillement d'analyser ce qui nous arrive à partir du moment où la vie n'est pas en danger. Bien sûr, quand elle l'est, et elle peut être aussi psychiquement, on doit faire face et faire ce qu'il faut.
Voilà. J'ai un peu plus loin dans ma question, Hélène Leuillet. Est-ce que dans l'expérience de la pandémie, de la maladie quand même, de la médecine malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'épreuve de la vérité de l'urgence face à du pur fantasme? Disons que dans votre livre, vous analysez aussi une dictature de l'urgence qui n'est, je dirais, fondée même pas sur la maladie, même pas sur un vrai danger.
Vérité,
là, il y a quand même un petit peu de vérité.
La vérité de la
vitale.
Vie et de la mort.
Voilà.
C'est-à-dire qu'effectivement, dans un premier temps, on peut dire que la maladie nous a rappelé que la mort existe, fait partie de notre condition et de la vie, ce que, bien heureusement, dans une certaine mesure, on a tendance à oublier. Alors, qu'on oublie peut-être un peu trop dans nos sociétés, hein, où on parque un peu la mort dans des lieux tout à fait particuliers, des temps, on ne veut pas trop en entendre parler, on n'a plus les mots aussi pour ça. Et la pandémie nous a rappelé ceci. Bien entendu, on ne peut pas toujours vivre en pensant à la mort. Il y a une part de méconnaissance qui est nécessaire à l'existence. Mais dans une certaine mesure, pour penser la temporalité correctement, mais ça, ce n'est pas l'urgence, à mon avis, il faut quand même, de temps en temps, comme les stoïciens, se dire que ma foi, c'est peut-être mon dernier jour, etc.
Que le temps est réel.
Ça permet de ne pas trop procrastiner, ce qui est le mauvais retard, que le temps est réel, qu'il y a des échéances. Ça, c'est pas de mon côté l'urgence, c'est plutôt ce que j'appelle la hâte.
Alors, Peut-être que ça n'est pas l'urgence, mais ce que je voulais dire, c'est que l'urgence, quand elle est vitale ou mortelle, et c'est ce que vous affrontez aussi, Pierre Valette, peut-être même tous les jours, en tout cas où vous travaillez, j'espère qu'il y a aussi des jours de vacances, mais l'urgence vitale ou mortelle permet de faire, j'ai une expression qu'on va retrouver dans la discussion, le tri entre les urgences, c'est-à-dire on est dominé par aussi des fausses urgences, et là, la maladie quand même, quand on est appelé, ou l'accident, parce que vous travaillez aussi sur des accidents, des catastrophes, Pierre Valette, c'est quand même, tout à coup, des urgences vraies, alors est-ce que c'est des vraies urgences? Mais dans votre expérience de la médecine, Pierre Valette, est-ce que vous reconnaissez dans l'analyse d'Hélène Loyer?
Alors, dans notre façon d'aborder les choses, nous, médecins urgentistes, on a l'habitude de parler de vraies urgences et d'urgences ressenties. Or, à l'usage, on se rend compte que nous sommes confrontés là à, en fait, finalement, deux régimes de vérité. Puisque l'urgence ressentie est, pour la personne qui le ressent, une réelle urgence. Mmh. Et même si ensuite, quand elle passe au travers du filtre de la qualification médicale, devient une urgence plus relative ou devient quelque chose qui n'est pas urgent, mais une demande de soins non programmée, c'est toute la différence entre, finalement, on va faire la distinction, nous, entre ce qui est programmable et ce qui est non programmable.
C'est ça le critère de l'urgence. L'urgent réel, urgence, c'est celle qui
n'attend
pas. C'est
celle qu'on ne peut
qu'on pas la reporter.
Voilà, exactement. Mais pour autant, pour ces personnes qui vivent l'urgence, là, on peut faire un parallèle avec le temps réel, durée.
On va venir à cette question du temps, ça c'est certain, Pierre Valette.
Pour une personne qui vit l'urgence, c'est une vérité qu'elle affronte, quelqu'un qui se sent en danger. Les personnes qui nous téléphonaient, qui avaient croisé des touristes tout au début de la crise, ou qui croisaient une personne qui avait un phénotype asiatique,
j'ai entendu parler, moi, Pierre Valette, de gens qui s'enfuyaient dans la rue en voyant quelqu'un qui avait l'air chinois.
Voilà, s'inquiétaient et étaient pris de panique. Et pour eux, il y avait urgence à être rassurés parce qu'ils se sentaient en danger.
Et ils appelaient le SAMU.
Et ils nous appelaient pour nous demander d'abord ce qu'ils devaient faire, s'il y avait du danger, comment ils devaient se comporter, comment ils devaient faire avec leurs petits-enfants, avec des personnes âgées, etc.
Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, Pierre Valette, en tant que médecin de SAMU? C'est-à-dire, vous avez employé un mot, et je pense que plusieurs mots là sont apparus qui sont très importants, mais même le mot de panique, par exemple. Voilà, face à la panique, c'est-à-dire qu'il y a aussi la détresse face à ce qu'on ressent comme urgence, vrai ou fausse, effectivement. Comment est-ce qu'on réagit?
Il faut d'abord essayer de limiter cette panique et là c'est parfois très difficile parce que vous avez au téléphone en quelques secondes des personnes qui vous tiennent des propos qui sont pas forcément cohérents et il va falloir essayer petit à petit de rentrer dans la conversation et de former une conversation, de former un dialogue pour pouvoir rassurer les personnes. Et c'est une partie de l'exercice qui est très difficile et qui, je dirais même, qui est plus difficile que une présentation médicale d'urgence absolue qu'on reconnaît très facilement et pour laquelle il n'y a pas de réflexion a priori à mener, et c'est seulement a posteriori que l'on va prendre des mesures de bonne orientation du patient et de juste soin.
Il y a des signes ou des rencontres qui sont tellement médicalement évidentes que vous n'entrez pas dans ce dialogue, et évidemment j'ai l'impression que là ce que vous venez de dire est essentiel aussi, et je suis sûr qu'Hélène Loyer va aussi y réagir à ça autant que moi, c'est-à-dire ce recours au langage déjà pour mettre à distance la panique, au fond, comme le langage, comme peut-être déjà le premier secours, finalement.
Absolument.
Un langage d'urgence, mais l'urgence du langage, on pourrait dire. Hélène Loyer, vous qui êtes aussi psychanalyste.
Oui, tout à fait, l'urgence du langage, c'est tout à fait ça qu'il a fallu faire pendant ces temps où la panique pouvait gagner. C'était que garder un cadre dans lequel la parole était possible, et la parole tranquille, où on peut parler d'un peu n'importe quoi. J'aime pas parler de tout, parce que ça a quelque chose de totalisant.
On peut parler de n'importe quoi, quand même, quand on appelle le SAMU.
Parler n'importe quoi, j'entends parler même des bêtises. Dire j'ai eu peur de mettre mettre ma main sur la porte de l'ascenseur. Je sais bien que c'est complètement idiot, mais il faut que j'en parle à quelqu'un.
Vous laissez, Pierre Valette, les gens qui vous appellent justement exprimer
oui,
ces angoisses.
On les laisse s'exprimer pour d'abord, dans un premier temps, comprendre envisager la situation, même si on ne voit pas le visage de la personne, et à partir de là, pouvoir effectivement... A priori, quelqu'un qui fait le 15, c'est une urgence vitale. Et donc, nous sommes dans un raisonnement en défense, on pourrait dire. Et c'est seulement une fois que l'on a bien évalué une situation, que l'on peut posément rassurer les personnes. Et un appel à un service d'urgence vitale peut se terminer par un simple conseil médical, mais qui, je dirais, simple parce que l'action n'est pas énorme, mais très importante pour les conséquences.
Et qui a été précédé par ce moment de dialogue que vous décriviez. En effet, vous êtes d'accord finalement pour dire faut laisser la parole s'exprimer.
Il y a une autre chose avec laquelle je suis tout à fait profondément d'accord, c'est l'urgence ressentie, parce que je crois que nous devons tous effectivement aller au-delà de ce qui paraît l'évidence de l'urgence. Ça aussi, en police, c'est bien connu. Vous savez, la police d'ordre menace souvent plus les dissidents que les terroristes, parce que les dissidents, ils sont sur la voie publique. Mais il y a aussi tout ce qui est souterrain.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a, les dissidents manifestent, les terroristes se cachent. Bah, on réprime plus les dissidents que les terroristes.
Bien
c'est ça que vous voulez dire.
Bien
donc, il y a l'évidence. Il y a des vraies urgences qu'on voit moins.
Absolument, absolument. Et quand quelqu'un dit « attention, je suis en danger, j'ai un symptôme qui paraît bénin, mais attention, je suis en danger », comme psychanalyste, je pense que comme médecin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça a une importance. Et bien souvent, et c'est pour ça que j'ai cette critique sur l'état d'urgence. Quand on est en état d'urgence, eh bien cette parole-là, on peut avoir tendance à ne pas l'entendre. Quand quelqu'un qui a l'air, je prends donc plutôt le champ que je connais de la psychanalyse, très bien adapté, qui va à son travail, qui a une vie familiale, vous dit « je suis en train de m'effondrer », on dit « bah non, bah ça va, vous avez l'air parfaitement bien, enfin, etc. » Non, là, il y a quelque chose qu'il faut entendre et prendre au sérieux. Cette urgence ressentie, si je reprends votre
terme,
elle dit quelque chose. Et l'état d'urgence, cet imaginaire de l'état d'urgence, du compte à rebours, fait qu'on pourrait avoir tendance à négliger cette parole de quelqu'un qui vous dit « écoutez, là, je suis en train de dégringoler ». Et qu'on a envie de lui dire, bon, comment, mais vous êtes vraiment tout mignon, toute mignonne, vous rentrez de vacances. Non, là, il faut entendre ça.
Votre maison ne brûle pas,
le
ciel ne vous tombe pas sur la tête, donc de quoi vous plaignez-vous ?
Exactement. Il y a quelque chose à entendre et c'est sûrement une vraie urgence.
Et puisqu'il y a quelque chose à entendre et que vous êtes d'accord sur le fait que l'urgence est d'abord un appel et une écoute, d'abord une rencontre, on va prendre le temps d'entendre la première pause musicale, celle qu'a proposée Pierre Valette et adaptée au mois où nous parlons, dans les événements de cette rentrée 2020, un morceau intitulé « September Song ». À présent,
Frédéric Worms. Thank you.
À présent, l'urgence, comment l'affronter? Est-ce qu'elle s'est aujourd'hui généralisée pour, avec quel danger, mais aussi peut-être quelle puissance de révélation l'urgence de la pandémie nous révèle-t-elle aussi les vraies urgences et permet-elle d'éclipser les fausses? Nous en parlons ce soir avec Hélène Leuillet, philosophe et psychanalyste, et Pierre Valette, médecin urgentiste et philosophe. Pierre Valette, on vient d'écouter September Song. Vous avez choisi cette chanson pour une raison, je pense, précise, en tout cas pas seulement peut-être par la date de septembre.
Non, pas seulement, oui, effectivement, je m'en suis rendu compte à l'instant que il y avait un raccord avec le mois. C'est un morceau un peu répétitif, qui un peu lancinant, et qui justement permet cet arrêt. Cet arrêt nécessaire à un moment donné dans ce temps qui s'écoule, qui fuit, qui passe très très vite, parce que quand on est dans l'action d'urgence, on n'a plus la notion du temps extérieur, du temps des horloges, et il y a un effet d'ailleurs assez curieux dans les services d'urgence. Il y a très peu de services d'urgence ont des fenêtres sur l'extérieur, et il y a un effet qu'on pourrait appeler effet casino, c'est-à-dire que on ne se rend pas compte.
Coupé du monde finalement.
Oui, un peu coupé du monde, et on ne sait plus si on est le jour ou la nuit, puisque nous sommes en permanence dans l'éclairage artificiel, et le temps finalement se déroule de façon, on a le sentiment qu'il se déroule de façon désynchronisée par rapport au monde extérieur. Mmh. Et donc, il y a un côté sacralisation du temps à l'intérieur de l'action de l'urgence, où patients d'ailleurs comme médecins, nous n'avons plus la même notion du temps. Et patients comme médecins, nous n'avons plus non plus la même notion du temps que le monde extérieur, que les personnes à l'extérieur.
Alors vous venez d'insister évidemment sur la notion de temps, sur l'expérience du temps. Le mot urgence a un sens organique, vital, c'est le danger, mais c'est évidemment aussi le sens temporel, c'est tout de suite. On parle de ce que la pandémie nous révèle, mais vous avez l'un et l'autre une réflexion de fond sur l'urgence, son rapport au temps, comment le médecin affronte ce rapport au temps et peut y retrouver justement, prendre du temps, son temps. Vous-même, Hélène Leuillet, donc c'est sous cet angle du temps que vous rencontrez la question de l'urgence. Votre livre, Éloge du retard, en fait, est aussi un livre sur l'urgence. C'est, paradoxalement, vous faites l'éloge du retard comme manière de résister à l'urgence, mais quel est pour vous le danger temporel de l'urgence?
Le danger temporel de l'urgence, il vient de ce que quand on est, je le précise encore une fois, en dehors des métiers de l'urgence, où il est nécessaire d'affronter l'urgence, eh bien, cette expérience temporelle que Pierre Valette vient très bien de décrire, elle fascine. Mmh. Et on a envie de vivre ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'urgence dans nos vies, elle est ce qui pourrait nous sortir de la routine, ce qui nous permet aussi d'éviter d'affronter cette expérience de notre condition humaine qu'est l'expérience temporelle, qui est mélancolique, qui nous confronte au rien, au vide, tandis que l'urgence, c'est l'abolition du temps. Par exemple,
du pouvoir
prenez
aussi, avec
du pouvoir,
fascination aussi pour une forme de
force,
prise
de force, de puissance, de... Si vous prenez les séries, le nombre de thrillers, hein, lire des thrillers, c'est lire quoi? C'est lire ce qui vous met en état d'urgence, ce qui raconte l'urgence. Au fond, il y a un seul thème, c'est l'urgence, et qui nous met nous-mêmes en état d'urgence, comme si on était un médecin urgentiste ou comme si on était dans un service de renseignement et qu'on devait déjouer un attentat, etc. Vraiment, si vous regardez 24 heures chrono, moi je ne sais pas qui peut s'endormir après avoir vu...
J'en connais qui s'endorment même devant les choses les plus dramatiques.
C'est formidable, ils ont une très belle expérience du temps, parce que sinon ça supprime le rapport au temps. Donc effectivement, alors presque au-delà, je dirais que ce modèle de l'urgence, il nous fait perdre de vue ce que c'est que vraiment l'acte, ce que c'est que vraiment agir. Parce que le modèle, au contraire, qui nous est proposé, c'est le modèle du passage à l'acte. Je prends effectivement l'exemple de l'écologie. Bon, c'est vrai qu'il y a un grand retard écologique. Il y a quelque chose dans notre situation écologique qui est très périlleux, hein, vu que le confinement, avec tous les aléas économiques qui ont été les siens, et qui sont quand même là aussi très, très préoccupant et dangereux, a permis quand même de reculer de 3 semaines, seulement 2 mois de confinement, reculer de 3 semaines notre épuisement des ressources
monde,
de la planète.
La fin du monde a reculé de 3 semaines.
Enfin, de l'épuisement, en tout cas, épuisement des ressources de la planète. C'est un peu plus calculé quand même.
Ah, un raccourci.
À bout garage pour éviter ça. Vous savez, le lieu où on est, qui est épargné par la fin du monde. Une petite commune de l'Aude.
Oui, un village français qui sera le seul lieu épargné par l'apocalypse.
Voilà, c'est ça. Bon, pour revenir à notre propos, ce modèle de l'urgence, vite, 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 il faut agir, c'est un modèle de passage à l'acte, pas d'acte.
Alors, c'est très frappant parce que dans votre livre, Pierre Valette, vous défendez justement le rôle du médecin dans l'urgence comme celui qui agit. Il y a des protocoles d'urgence sans acteur et le médecin est celui qui agit. Mais justement, avant de redemander à Pierre Valette comment il réagit à la description que vous faites, Hélène Leuillet, moi je voulais vous demander, c'est très frappant ce que vous venez de dire, l'urgence qui est où le temps disparaît et où le réel disparaît, alors qu'on a l'impression que dans l'urgence, au contraire, le temps est partout, le tic-tac est partout, c'est maintenant. Et qu'en même temps, on se coupe du monde, comme le décrivait Pierre Valette, mais c'est quand même pas un jeu vidéo totalement, c'est pas non plus une série, c'est pour de vrai, c'est du réel. Et on se coupe d'un réel, mais est-ce qu'on n'est pas dans le réel quand on doit, je dirais, faire des massages cardiaques, par exemple, c'est notre image spontanée, ou ventiler quelqu'un qui est intubé quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quand même du réel?
Oui, mais là, je ne suis pas certain que parmi tous ceux qui sont fascinés par l'urgence, tout le monde serait capable d'effectuer un massage cardiaque, ni même aurait le désir d'apprendre à le faire. Là, on est effectivement dans le registre du réel, tandis que l'urgence, elle fascine au niveau imaginaire. Vous savez, c'est la même chose que pour les résistances pendant les périodes de guerre. On a le sentiment que si on se dit très très fort tous les jours « j'aurais résisté, j'aurais résisté, j'aurais été résistant », on aurait résisté. Ben non, en vérité, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est notre disponibilité à l'événement, laquelle suppose qu'on se soit préparé à l'acte et pas au passage à l'acte, qui permet de tenir sa place au moment où il faut. C'est le rapport au réel. Et vous avez raison, mais le rapport au réel, il est entretenu par une forme de disponibilité à soi et pas par une agitation en tous sens qui fait qu'on imite l'urgence sans véritablement éprouver ce qu'est le moment où il faut agir en urgence. Je dirais que l'urgence, c'est pas le but. L'urgence, c'est l'état dans lequel on se trouve quand on est en face d'un réel qui exige qu'on agisse. Quand l'urgence est recherchée pour elle-même, alors c'est un simple imaginaire qui nous sert à supprimer le temps et qui nous empêche, au bout du compte, d'agir.
Mais vous-même, Pierre Valette, par exemple, en tant que médecin urgentiste, est-ce que vous êtes aussi dans la fascination? Est-ce que pour vous, il y a donc cette urgence réelle qu'Hélène Leuillet vient de décrire, du médecin face à une urgence vitale, mortelle, ce critère quand même du réel, hein, ça peut basculer, et le temps là est bien réel. Mais est-ce que vous avez aussi cette fascination? Est-ce que vous, dans ce monde clos, justement, est-ce que vous voyez le danger, au moins, le risque de cette fascination?
Alors, la médecine d'urgence est une médecine d'action. Même quand elle s'effectue assis derrière un téléphone, elle est quand même une médecine d'action, puisque nous pouvons être amenés à faire des gestes d'urgence à des personnes qui n'en ont jamais réalisé. Et c'est pour ça que là, on est dans le registre du délai très bref. Et là, l'urgence se situe à...
La réalité du temps est bien palpable.
Elle est palpable, là. Et le temps passe toujours trop vite dans ces cas-là. Et donc, on est amené à... Justement, ça serait très bien si la plupart de nos concitoyens étaient capables de faire un massage cardiaque. On gagnerait des vies. Parce que ce sont les premiers instants qui sont décisifs, et c'est ce que l'on dit au téléphone aux personnes qui sont forcément résistent à ce qu'on leur demande de faire, mais en leur disant que le temps que les sapeurs-pompiers arrivent, il y a quelque chose à faire qui est décisif pour sauver une vie.
Mais alors justement, c'est ce que disait Hélène Leuillet il y a un instant, au lieu d'être fasciné par un modèle imaginaire de l'urgence absolue, on devrait se préparer tous à des urgences réelles finalement.
Exactement.
Apprendre à tous un peu le métier, votre métier finalement, d'urgentiste.
Oui, tout au moins les gestes élémentaires de survie, qui sont les gestes à réaliser sans délai.
Peut-être qu'une des manières de résister à cette dictature de l'urgence que tout le monde dénonce plus ou moins précisément et qu'Hélène Loyer critique avec précision, un des moyens de critiquer cette dictature de l'urgence, c'est d'être tous un peu urgentistes, justement.
Enfin, oui, tout au moins d'être sur d'avoir franchi la première marche du degré d'urgence et d'être en capacité de pouvoir répondre faire le bon geste face à un malaise cardiaque et le bon geste face à un arrêt cardiaque.
Vous disiez l'acte, Pierre Valette, justement, dans votre livre, vous qui êtes médecin urgentiste, dans votre livre qui est intitulé encore une fois « Éthique de l'urgence, urgence de l'éthique » au PUF en 2013, je crois, vous défendez l'idée que l'urgence, justement, n'est pas un état, comme disait Hélène Loyer pour le critiquer, mais un moment où il y a une relation entre un sujet qui est vulnérable et un autre qui prend une responsabilité. S'il n'y a pas cette prise de responsabilité, pour vous, l'urgence devient justement un protocole anonyme, une sorte de fantasme.
Exactement. Le temps qui est imparti dans la relation médecin-malade ne permet pas le consensus avec le patient, ne permet pas un
dialogue... Dans l'urgence, vous voulez dire, dans la médecine d'urgence.
Oui, dans la médecine d'urgence. Dans l'urgence, ne permet pas un dialogue qui aboutit à une explication complète de ce que l'on va réaliser auprès de la personne, comme par exemple un chirurgien qui rencontre un patient et lui explique les tenants et aboutissants d'une intervention chirurgicale, les complications possibles... Et puis finalement, de laisser aussi le choix, ce qu'on oublie toujours, mais chacun est libre de choisir de se faire soigner de telle ou telle façon ou pas. Dans l'urgence, il y a effectivement une forme de prise de pouvoir parce que justement le temps ne nous permet pas de recueillir le consentement de la personne. Parce que le réel est là pour nous presser. Pour nous comprimer et pour obliger l'action immédiate.
Et vous décrivez très bien dans votre livre justement comment vous dégagez au minimum un instant, au moins où ce temps peut apparaître. Je vous sentais tout à fait d'accord et aussi frappé par cette description.
Tout à fait, parce que justement ce qui me frappe, c'est que pour être capable d'agir dans l'urgence, il faut s'être préparé, je pense... parce que ça nous concerne tous aussi parfois dans la vie, à n'être pas paralysé, à n'être pas tétanisé. C'est-à-dire que bien souvent dans la vie, quand on a devant soi une urgence, il arrive qu'on ferme les yeux. Combien on dit toujours les gens passent leur chemin, mais pourquoi ils n'ont pas vu tout simplement parce que comme on n'est pas prêt, donc on vit avec ses pensées dans la tête et c'est après on se dit mais il y avait une urgence là que devant laquelle j'ai été paralysée, devant laquelle j'ai été tétanisée. Et donc la préparation à pouvoir agir en urgence, ça c'est quelque chose qui exige qu'on réfléchisse sur l'acte et qui comporte à mon avis toujours quelque chose d'énigmatique. Vous savez, parfois, les gens qui se sont trouvés dans des situations de guerre, qui ont eu à affronter la torture, disent « là j'ai agi comme ça, mais je ne sais pas si... » 10 minutes après, une demi-heure après, une heure après, j'aurais agi de même. Il y a une disponibilité à soi qui permet de recueillir l'urgence, d'être là devant l'urgence et pas de fermer les yeux, les oreilles ou de passer son chemin parce qu'on ne peut pas le voir et qu'on ne peut pas agir.
Mais alors ce que vous êtes en train de dire, Hélène Loyer, c'est que d'un côté, on est piégé par une fascination pour une certaine urgence, une urgence d'ailleurs un peu fictive, fantasmée, et d'un autre côté, par un aveuglement ou un déni, une peur aussi sans doute, un refoulement de l'urgence. Et donc entre la fascination et le refoulement, c'est quand même un peu inquiétant. On n'a pas tous les moyens d'être médecin ou fonctionnaire dans un métier d'urgence. On est pourtant tous concernés. Comment est-ce que vous pensez qu'une psyché, un sujet humain, je dirais, ordinaire, se prépare alors
à
l'urgence.
Écoutez, on peut pas, il n'y a pas de recette mécanique. Je crois qu'il y a toujours quelque chose d'énigmatique dans l'acte, mais en même temps, en tout cas, rester à peu près dans son temps subjectif, ça permet d'accueillir l'urgence. Alors que perdre le rapport au temps, ça permet pas du tout de l'accueillir. Je pense que là, on fuit la véritable urgence, bien entendu. Il s'agit pas de faire le métier des médecins urgentistes ou des autres métiers de l'urgence. Je pense que ça demande des qualités psychiques aussi qu'on n'a pas forcément tous. Hein. Mais quand même, il faut qu'on puisse, comme citoyen, comme personne qui a affaire à d'autres personnes, pouvoir être là.
Par temps subjectif,
ça suppose d'être proche de soi.
Temps subjectif, Hélène Loyer, vous voulez dire que tout événement, finalement, un événement n'est jamais seulement extérieur, il prend sens dans notre vie, dans la manière dont nous donnons sens à notre existence temporelle.
C'est ça.
Et il faut prendre le temps de faire ça pour que même les événements les plus soudains, les chocs les plus brutaux, puissent ne pas être totalement désarmants.
Mais bien sûr, vous savez, même je pense que parfois, il y a des actes qu'on fait ou qu'on ne fait pas parce qu'on a mal dormi ou parce qu'on est enrhumé, etc. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose là du rapport à soi qui est très important et qu'effectivement la capacité à pouvoir rester ouvert à l'événement, c'est quelque chose qui ne nous est pas toujours donné. Quand on est trop stressé, trop débordé, etc., eh bien bizarrement, on devient fermé à ce qui se présente à nous.
Vous êtes d'accord, Pierre Valette, avec cette description, vous-même en tant que médecin?
Oui. Alors, je n'aurais pas la même formulation, ni la même approche, mais le résultat est le même. Nous, médecins urgentistes, quand je parlais que nous étions en permanence en défense, c'est parce que le pire pour nous, c'est devant une situation d'urgence de ne pas y croire.
Ah oui.
Et c'est un biais cognitif qui est majeur. Et d'ailleurs, si on fait un petit retour sur la crise de la Covid, il faut bien reconnaître que les premières semaines, il y avait une forme de déni. On ne voulait pas y croire. Non. C'était loin, c'était en Chine. Et même quand c'est arrivé en Italie, ça touchait les Italiens. On était dans une forme de confort, en disant ça peut pas nous arriver. Et le pire dans une crise, justement, c'est de ne pas y croire, ce déni. Et c'est ce que certains psychologues appellent donc un biais cognitif majeur et qui nous hante, nous médecins urgentistes. Et comme vous le disiez, quand on est dans une période de garde, à un moment donné de la nuit, nous sommes fatigués, nous sommes peut-être un peu enrhumés et c'est à ce moment-là que nous sommes très sensibles, très, très fragilisés par les biais de raisonnement.
Alors, vous parlez de biais de raisonnement, Pierre Valette, mais ça intervient à coup sûr. Mais est-ce que vous assumeriez aussi ce que Hélène Loyer décrit sous le nom de temps subjectif, c'est-à-dire plus individuel finalement, d'un sujet personnel, j'allais dire vous-même, Pierre Valette? Pas seulement biais cognitif du médecin qui doute d'une crise, mais finalement, devant accueillir un événement dans votre subjectivité personnelle. Est-ce que cette subjectivité personnelle, en effet, vous la voyez aussi comme une ressource ou un problème, peut-être?
Oui, non seulement une ressource, mais elle est totalement enveloppante de la relation médecin-malade. Et on va avoir deux subjectivités qui vont quelque part s'affronter, et il va falloir... presque pour nous médecins envelopper de façon bienveillante la subjectivité du patient de façon à aussi permettre de calmer la tension, de calmer la peur qui touche les personnes et on le voit nous dans le regard des. Il n'y a pas besoin de dialogue, on le voit dans leur regard.
Alors donc, on a quand même des ressources subjectives et techniques aussi, scientifiques et sans doute politiques face à l'urgence. C'est ce dont nous allons parler, face aux urgences aussi, comment les hiérarchiser, comment répondre aussi à cette question du pluriel, des urgences dans notre société d'aujourd'hui. Mais Hélène Loyer, justement, a choisi pour notre deuxième pause musicale un morceau plus politique qui renvoie à cette hiérarchisation des urgences, l'Estaca.
Si et que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, affronter l'urgence. Affronter l'urgence, c'est-à-dire aussi affronter les urgences au pluriel et même d'une certaine façon trier entre elles, mot médical et aussi politique, hiérarchisé. Ne pas aller trop vite dans la définition de l'urgence première. Nous en parlons ce soir avec Pierre Valette, médecin urgentiste et philosophe, et Hélène Leuillet, psychophilosophe et psychanalyste, qui vient de nous proposer ce morceau plus politique, parce que Hélène Leuillet, justement, et je sais que c'est le cas aussi de Pierre Valette, vous considérez qu'il y a des urgences évidentes, vitales, qu'il y a aussi une fascination dangereuse pour l'urgence en général, mais aussi qu'il y a plusieurs urgences. Il y a une urgence politique, vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau qu'on vient d'entendre, mais il y a aussi une urgence du retard, c'est votre livre Éloge du retard, une urgence de la pensée. Je cite une phrase de votre dernier chapitre qui cite l'empereur Marc Aurèle, le philosophe stoïcien au pouvoir suprême à Rome. Quelle que soit l'urgence, enfin c'est une phrase de vous, hein, c'est pas une phrase de Marc Aurèle, mais on sait bien que Marc Aurèle l'aurait assumé, et il y a des phrases célèbres très proches. Quelle que soit l'urgence, il est urgent de prendre le temps de méditer. Alors, Hélène Leuillet, comment est-ce que vous distingueriez entre... Est-ce qu'il n'est pas vital, justement, de distinguer entre des urgences? Il y a des urgences immédiates, le corps peut cesser de vivre, le cœur de battre. Il y a des urgences politiques, il y a des urgences philosophiques. Comment est-ce qu'on les distingue? Comment est-ce qu'on les organise, au fond? Est-ce que le premier geste de résistance, c'est pas justement de mettre le mot urgence au pluriel?
Oui, Frédéric Worms, vous avez tout à fait raison. Il faut pluraliser en quelque sorte l'urgence et peut-être la ramener effectivement, comme Marc Aurèle, à la pensée, c'est-à-dire aussi à la pensée de l'échéance suprême, c'est-à-dire à penser aussi sous le coup de ce qui peut s'arrêter ou de ce qui doit s'arrêter.
De la mort, vous voulez dire?
De la mort, et puis aussi de la, par exemple, de la résistance. Hein. C'est tout ce qui est de l'ordre de la fin. C'est-à-dire que l'urgence en politique, on a eu tendance dans la tradition à la penser de manière machiavélienne. Hein. C'est la nécessité machiavélienne.
Saisir l'occasion, l'instant.
Voilà, l'instant d'agir, de préserver l'État, de conserver l'État. Mais il y a aussi une urgence de la résistance. Et j'ai choisi cette chanson. Bah, alors, je l'ai choisie aussi en relation avec ce qui se passe aujourd'hui en Biélorussie, parce que cette chanson est justement celle qui anime les manifestations, qu'on a entendues dans les manifestations qui ont lieu hein, depuis maintenant la fin de l'élection qui a reconduit Loukachenko, alors que manifestement c'était l'opposante hein, qui les avait gagnées. Et malgré la répression, les résistants...
Il y avait une urgence de résister, justement.
Exactement.
Mais alors, rappelez-nous l'histoire de cette chanson.
Alors, cette chanson, c'est une chanson catalane, c'est Louis Slar qui l'a écrite, c'est une chanson de résistance, mais elle a un drôle de destin, c'est le destin d'une chanson, hein. Elle va bien au-delà de la cause catalane qu'on peut épouser ou pas, c'est pas du tout mon propos, mais parce que elle a été reprise en Pologne, là en Biélorussie, elle est devenue une chanson de révolution, une chanson de résistance, parce que son texte, c'est « ça ne peut pas durer ». Il faut qu'on arrache ces chaînes qui nous enseignent, ce pieu auquel nos chaînes sont attachées, et c'est l'histoire, alors évidemment c'est une métaphore de paysan qui arrache un pieu, mais enfin c'est une chanson manifestement politique. Il faut arracher ses chaînes et c'est maintenant, ça ne peut pas durer, c'est dur, mais si tu tires d'un côté, Et si moi je tire de l'autre, eh ben on va y arriver.
On va y arriver.
C'est ce qui galvanise la force des peuples résistants, disant ça ne peut pas durer, la dictature.
Et alors ce ça ne peut pas durer, Hélène Leuillet, vous insistez, oui. Parce que pour vous c'est justement la capacité des humains à tout à coup élever une priorité réelle pour guider une action et non pas céder à un fantasme généralisé de l'urgence que vous critiquez par ailleurs. Donc...
Voilà, parce que le fantasme généralisé de l'urgence, cette espèce d'état d'urgence qui nous fascine, en vérité, il nous aliène à un temps qui n'est pas le nôtre. Vous savez, la fascination d'urgence, elle existe parce que l'urgence nous procure un très fort sentiment d'intensité. Ça, je me souviens quand j'avais travaillé sur la police, les policiers qui ont agi dans l'urgence, qui ont aussi, eux, perdu à un certain moment le sens du temps qui passait, eh bien, ils vous disaient « j'ai vécu, au moins j'ai vécu ». Donc l'urgence, pour ça, elle nous donne ce sentiment très fort qu'il y a eu de l'acte, qu'il y a eu quelque chose de vécu. Mais quand c'est cette espèce de paradigme de l'urgence qui fascine tant dans les sociétés, ça nous fait perdre, ça nous aliène complètement. Et là, effectivement, on ne priorise plus rien. Alors que quand je dis, évidemment, c'est un peu une provocation, l'urgence, c'est d'arrêter et puis de penser, c'est de se demander aussi ce qui est urgent.
Ce qui est véritablement
pour soi,
urgent.
Parce que parfois, on passe à côté de ce qui
alors,
est urgent.
Alors, vous nous direz aussi, Hélène Leuillet, comment on ne se trompe pas en politique, comment on ne se trompe pas d'urgence, justement.
Bien sûr.
Mais vous-même, Pierre Valette, malgré tout, il y a des gens qui inventent des fausses urgences, l'urgence de rejeter les autres à la mer, l'urgence de faire la guerre aussi, et non pas de l'arrêter. Mais vous-même, Pierre Valette, en tant que médecin, effectivement, d'urgence, l'un des premiers gestes du médecin, c'est aussi de trier, c'est aussi de hiérarchiser. Et on peut même dire qu'il y a beaucoup plus d'urgences qui attendent, qui sont reportées, que d'autres qui sont traitées dans l'urgence même, au fond. Donc le geste du tri, du choix, de la priorisation.
Oui, et alors c'est là où il faut absolument ne pas être enfermé dans le paradigme de l'urgence, et c'est-à-dire de ne pas être dans l'urgence, mais d'agir en urgence.
C'est ça.
Et là, ce qu'on pourrait peut-être dans la critique de la politique, c'est justement, on peut avoir une prise, une décision politique en urgence. Or, ce que l'on a l'impression, nous, en qualité de citoyens, c'est que des prises de position politiques sont faites dans l'urgence.
Comment est-ce que vous distinguez les deux, Pierre Valette, exactement?
Quand on est en urgence, on a au départ eu une réflexion, on a eu ce temps dont vous parliez, Frédéric Worms, tout à l'heure, justement, le temps, à un moment donné, il est urgent d'attendre, il faut quand même se donner un temps de la réflexion pour justement éviter les biais, pour bien cerner toute la partie subjective qui nous touche et qui aussi est devant nous avec les patients. Et à partir de là, pouvoir agir en urgence, c'est-à-dire on ne reporte pas ce qu'il y a à faire, on ne reporte pas l'action, on la fait immédiatement, mais elle n'est pas faite dans la précipitation. C'est ça, en fait.
Est-ce que pour vous, l'urgence politique, Pierre Valette, c'est justement, comme je pense Hélène Leuillet le disait au début aussi de notre discussion, c'est l'urgence politique, c'est de construire les cadres, c'est de permettre justement de résister à ces urgences qui arrivent par vagues, de construire les institutions, de construire les repères, de donner des moyens aussi aux humains pour affronter l'urgence précisément, Pierre Valette.
Oui, il y avait...
Ça, c'est la première urgence, finalement.
Oui,
l'urgence d'organiser l'urgence.
Oui, l'urgence d'organiser l'urgence et aussi l'urgence de ne pas se laisser entraîner, par exemple, uniquement par le discours médical. Parce que nous, forcément, nous serons toujours des bons conseilleurs pour certaines actions, mais pas forcément, nous n'avons pas le point de vue qui
est
extérieur,
de
la vue d'ensemble. Quand un médecin est directeur des secours médicaux, il est l'expert technique du préfet qui, lui, est directeur des opérations de secours. Il lui donne son avis, mais la décision revient au directeur des opérations de secours, au préfet ou son représentant, et il va tenir compte de ce qu'a dit le médecin, mais aussi ce que va lui dire d'autres aides, d'autres experts.
Par exemple, j'imagine Pierre Valette, un juriste ou un conseiller qui va lui dire bah ça, la loi l'interdit, par exemple. Hélène Leuillet, vous qui êtes aussi philosophe du politique, autant que psychanalyste, et ça peut être lié, ce rôle aussi de la loi, des repères, de la hiérarchisation du juste aussi. Une justice dans l'urgence, est-ce que ça vous paraît aussi un outil fondamental de résistance ?
Ah, tout à fait, Frédéric Worms. Ça, je pense que les grands repères font partie de cette préparation dont on parlait et qui nous permet, effectivement, j'adhère tout à fait à cette distinction de Pierre Valette à l'instant entre l'urgence et la précipitation. Cette préparation, elle est aussi ce que nous trouvons dans la méditation sur les principes qui peuvent nous faire agir. Alors, il y a évidemment les grands principes du juste. Il y a aussi parfois, notre éthique personnelle, je veux dire, ça compte aussi le rapport qu'on a à sa propre expérience, ce qui nous permet de répondre présent, puis parfois pas toujours, parce que on ne peut pas toujours être complètement disponible à ce qui est l'urgence. Il faut admettre aussi, je pense, avec humilité devant l'urgence. Ce qu'on est capable d'apercevoir et puis ce qu'on n'est pas capable d'apercevoir, là où on peut être présent, puis d'autres moments où on répond moins. Cette priorité des urgences, je pense que chacun de nous aussi a à faire le travail de se demander ce qui, selon les différents moments de sa vie d'ailleurs, parce que ça change, est urgent ou pas.
Dans une vie individuelle, évidemment. Oui. Alors j'ai envie de vous dire, plutôt comme citoyen l'un et l'autre, mais en une phrase, malheureusement, puisqu'on a une urgence qui est notre horloge temporelle, même si on a pris un peu de temps, on a, grâce à France Culture, poussé les murs pour parler avec un peu de temps. J'ai envie de vous demander quand même à l'un et à l'autre, en une phrase, mais peut-être un peu plus en tant que citoyen même du monde, qu'est-ce qui est le plus urgent pour vous aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qui serait le plus urgent à mettre en place aujourd'hui, disons Pierre Valette, pour commencer, pour répondre à ces situations que vous affrontez dans cette période et en général d'ailleurs.
La crise sanitaire a donc imposé un Ségur de l'urgence et plutôt que finalement s'attacher à une politique de l'urgence, plutôt il serait peut-être préférable de travailler l'urgence en politique. Et que de se rendre compte que une crise sanitaire, par exemple, pour revenir à cette crise, elle est une urgence médicale, certes, oui, mais aussi une urgence économique, une urgence dans un tas de domaines, et ce qui en fait finalement une urgence politique.
Merci, c'est très beau d'entendre ça de la part du médecin urgentiste, Hélène Leuillet, en une phrase aussi.
Moi, je pense que comme citoyen, il est très important aussi qu'on prenne le temps qu'on redécouvre de la temporalité, aussi bien en politique, qu'on sache admettre l'aléatoire et l'incertitude, ce que les politiques ne savent pas faire. La politique du court terme, d'agir pour agir, c'est quelque chose qu'en tant que citoyen, on ne peut pas nous satisfaire. Il faut retrouver aussi de la temporalité dans le régime politique, quitte à assumer une forme de retard.
Le temps est aussi le temps de parler, comme on vient de le faire, et le temps de discuter entre citoyens, ce temps de la parole qui permet de répondre aux appels des humains dans les situations d'urgence. Merci infiniment à vous deux. À présent, affronter l'urgence, l'épreuve du présent par excellence, et en même temps l'épreuve de notre époque. C'était ce soir avec Pierre Valette, médecin et philosophe, avec aussi Hélène Leuillet, philosophe et psychanalyste, avec et grâce aussi à Pierre Richard, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. À vendredi prochain, 21h.